Donc c'est Marie-Astrid qui va nous donner la solution.
Absolument.
Une lourde charge qui pèse sur toi.
Alors, tout d'abord, merci, je te remercie, Dominique, de m'avoir invité et justement de laisser un peu la parole aux comptables qui, en général, sont un peu... Voilà, il y a une histoire d'image et des comptables qui sont quelquefois avec une image un peu terne, on va dire. Alors, je pense il y a des gestionnaires, il y a des comptables et puis... Et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont allergiques aux chiffres et pas... Non, ça va. Bon, alors je vais essayer de faire un entre-deux. Alors, avant de commencer, je vais, comme vous faisiez la distinction entre la comptabilité générale et la comptabilité de gestion, là je vais être surtout dans la comptabilité générale. J'ai un peu exclu la comptabilité de gestion, j'en parlerai un petit peu, mais je suis surtout au niveau de la comptabilité générale. Et je voudrais vous commencer par un article du Monde qui date... mais qui est toujours d'actualité et qui date de 1994. Comme ça, on n'aura pas d'ennui avec personne. Et il est écrit « Désireux d'être mis sur le marché en début de 96, afin de profiter du cycle ascendant de l'aluminium, Jean-Pierre Rodier, son PDG depuis juillet, presse le pas. Après avoir revu l'organisation, il s'attaque au compte du groupe. » Alors que Jean Gandois, son prédécesseur, avait prévu un retour à l'équilibre pour l'année 1994, Jean-Pierre Rodier a annoncé le 13 février des pertes. Selon les premières estimations, le groupe devrait enregistrer un déficit de 3,5 milliards de francs à la suite d'un amortissement exceptionnel de 2,5 milliards lié aux écarts d'acquisition. Et en 1993, Péchinet avait enregistré une perte de 980 millions de francs. Donc, là, il y a un changement de dirigeant et là, on nous indique qu'en fait, il va y avoir un résultat beaucoup plus négatif et donc lié à l'écart d'acquisition, et je vais y revenir, et certainement un écart qu'on va reprendre qui va permettre que le résultat augmente à nouveau l'année suivante en le reprenant. Alors, ça, c'est un exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire avec... la comptabilité générale, tout en respectant les principes, c'est-à-dire que ça c'est légal, et qu'en fait, il est possible d'ajuster le résultat avec certains postes. On peut moduler le résultat. Quand je dis moduler, il peut y avoir des énormes variations. On peut le moduler pour qu'il soit plus lié à la politique du groupe. Donc, et pourtant, il va y avoir un commissaire aux comptes qui va certifier les comptes, mais il va certifier les comptes en disant « je certifie que les comptes donnent une image fidèle ». Et ça, c'est le mot clé, c'est l'idée d'une image fidèle, ça veut dire qu'il y en a une, mais une, ça veut dire qu'il y en a plusieurs d'autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous certifiez pour une image, mais dans votre tête, il faut toujours se dire, en fait, il y en a plein d'autres et le résultat pourrait largement varier. C'est-à-dire qu'il peut être très positif ou très négatif. Alors, il y a cet exemple, mais on pourrait citer l'exemple de Elf, on pourrait citer l'exemple de Télécom. Alors, c'est avec des postes différents, c'est les provisions, etc. Mais c'est un grand classique, en tout cas, c'est un classique au niveau des groupes, mais tout ça est légal et ça donne une image fidèle. Bon. En fait, je vous dis ça au départ pour vous dire que juste il va y avoir un enjeu comptable énorme pour les groupes et pour les groupes cotés pour donner une certaine image et que la comptabilité va donner cette image sur les marchés fixes, etc. C'est là que ça va donner, si le résultat augmente, ben ça va donner confiance. On va dire que si le résultat a augmenté, on va dire que la politique du groupe était constructive, etc. Ou, par moments, ça peut aussi justifier qu'il faut fermer des endroits. Donc, il y a un enjeu avec la comptabilité, tout en respectant les principes. Cet enjeu, il y a un enjeu, un enjeu d'écriture d'une histoire, d'une écriture de quelle histoire. Alors ça, on a ça en tête. Et puis, nous, notre sujet aujourd'hui, c'est la responsabilité des mères vis-à-vis de leurs filières. Donc on a en tête qu'il est possible, tout en respectant les principes, d'arriver à un certain type de résultat, en suivant beaucoup de principes et d'obligations. Et puis d'un autre côté, là, on a en tête notre sujet qui est la responsabilité des mères vis-à-vis des filiales, et on va essayer, nous, de définir au niveau comptable ce que c'est que le groupe et qu'est-ce qu'on fait en comptabilité quand on étudie, quand on produit les comptes de groupe. Alors, toujours avant de commencer, avant de rentrer dans le détail, je voudrais juste que vous ayez en tête aussi l'exemple d'Enron. Et l'exemple d'Enron, si on simplifie, alors ça par contre était illégal, mais dans l'exemple d'Enron, il y avait les comptes du groupe Enron, et puis dans une filiale, quoi, dans une entité qui est en dehors du groupe, il y avait dans cette entité en dehors du groupe des dettes qui étaient mises et qui permettaient donc de ne pas impacter le résultat du groupe. Mais ça, c'était illégal. Donc, nous, on va voir dans une première partie, et je dis nous parce qu'on va le voir quand même ensemble, et surtout vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Hein. Vraiment. La première partie, c'est qu'on va regarder donc les comptes consolidés et on va regarder la définition comptable du contrôle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une société mère qui contrôle ses filiales. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, on va la découvrir plus tard. Donc, la première partie, donc dans les comptes consolidés, une définition comptable du contrôle. Alors, déjà, je me place du point de vue du comptable. Un comptable, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il va y avoir, quand il y a un groupe, comme LVMH, etc., chaque entité, comme Garlin, etc., doit produire des comptes individuels. Et il va y avoir des comptes consolidés qui vont être la somme des comptes de la société mère et des entités qui sont dans le groupe. Donc, la première chose qu'il y a à définir, c'est de savoir qui est dans le groupe. Parce qu'il va y avoir des entités qui seront extérieures et puis d'autres qui sont dans le groupe. Donc, la première chose, c'est de savoir qui est dans le groupe. Et alors pour ça, pour savoir qui est dans le groupe, on va avoir des définitions qui sont dans la réglementation française, c'est-à-dire si le groupe n'est pas coté, il faut suivre les règles de la réglementation française, et si le groupe est coté, il faut suivre des règles issues des normes, il faut suivre les normes internationales qui s'appellent les IAS et IFRS. Donc, déjà, un groupe, qui n'est pas coté, si on est en normes françaises, va y avoir des réponses dans le code de commerce. Et donc, ce code de commerce va nous éclairer pour savoir ce que c'est qu'un groupe. Et il va nous dire, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année, à la diligence du conseil d'administration et du directoire ou des gérants, des comptes consolidés, ainsi qu'un rapport de gestion sur le compte du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises dans les conditions ci-après. Donc, ils vont introduire le mot contrôle, et c'est ce mot contrôle, on va analyser si la mère contrôle la filiale, et qu'est-ce que ça veut dire pour la réglementation française, contrôler. Après, il nous précise, toujours dans le code de commerce, que les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code, compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport au compte annuel, et de la présentation de l'ensemble, comme une entité économique unique. Donc, dans le code de commerce, il nous explique donc qu'il faut produire, et c'est ce que vient de nous dire Jacques Richard, c'est que dans le code de commerce, on vient de nous expliquer que quand vous avez un groupe, eh ben, vous devez savoir d'abord qui est dans le groupe, et deuxièmement, vous devez publier des comptes du groupe, et en plus que c'est une entité économique unique. Bon, voilà. Donc, nous, première chose quand on va s'occuper d'un groupe, c'est de savoir qui est dans le groupe. Et dans la réglementation française, on va dire une entreprise contrôle. Alors, ça va être de façon contrôle lorsque. Alors, je vous le lis. Alors, je vais prendre là, alors pour les comptables, je ne prends aujourd'hui que le contrôle exclusif, c'est-à-dire quand on détient, pour simplifier, un contrôle exclusif, c'est-à-dire que vous détenez une grande partie des parts. Mais alors, le compte, alors je vous lis ce que dit le contrôle exclusif en langue française. Donc, c'est toujours dans le droit, dans le code de commerce. Donc, le contrôle exclusif par une société résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, soit de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. Donc la société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période directement ou indirectement d'une fraction supérieure à 40% des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit applicable le permet. Donc, ça veut dire, ça, c'est soit vous avez la majorité des droits de vote, soit vous avez 40% des droits de vote, soit il y a des choses qui sont définies statutairement qui vous permettent de voir que vous contrôlez. Donc, dans la réglementation française, c'est très court parce que ça fait ce petit paragraphe et ça va nous indiquer qu'une mère contrôle une filiale, on va dire, elle le contrôle par le nombre de, quoi, par la mesure du nombre de droits de vote. Alors, c'est vrai que si on s'appuie que sur ça, et aussi si on s'appuie que sur la définition, il n'y a pas exactement de définition du groupe, mais sur ce qu'il raconte sur le groupe dans le code de commerce, ça fait peu. Et ça fait même un vide, quoi, quelque part. Ça fait pas. C'est peu de choses. Mais alors, on peut être sauvé. Je dis sauvé entre guillemets, parce qu'il y a les normes internationales. Donc ça concerne les groupes cotés. Et les groupes cotés, c'est là où il y a vraiment des enjeux stratégiques énormes sur la comptabilité. Et là, dans les normes IAS-IFRS, quand vous voulez savoir si une entreprise, une société mère, contrôle une filiale, eh bien, la définition du contrôle, c'est tout ça. C'est tout ça. Vous voyez ? Puis c'est écrit petit, hein. Donc, voilà, c'est tout ça. Ça, pour le contrôle, quoi. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent du contrôle exclusif. Donc, c'est l'IFRS 10. Donc, voilà. Il nous donne ça. Et qu'est-ce qu'il nous explique ? Il nous explique qu'un investisseur... Alors là, on change un peu de... Que la société mère contrôle une filiale si la société mère a le pouvoir sur les activités pertinentes, si elle a, alors c'est des mots bizarres, mais je vais vous le dire, les droits au rendement variable et la capacité d'agir sur ces rendements. Alors, le pouvoir sur les activités pertinentes, alors vous allez me dire, comment on mesure le pouvoir? Et c'est ça qui est très intéressant en normes IAS-IFRS, et c'est pour ça que, vraiment, je te remercie, Dominique, et je remercie Aurore, parce que pour une fois que je vais pouvoir m'exprimer sur l'IFRS 10, vous voyez, à des gens qui ne sont pas comptables, je suis... Voilà. Donc merci hein, de m'écouter, même si c'est un peu... Bon. Donc, ils définissent, quoi, je veux dire, pour définir le contrôle en normes internationales, donc pour les groupes cotés, ils vont nous expliquer que le contrôle, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et tout ça, c'est une définition du pouvoir. Et c'est hyper intéressant. Quoi, je veux dire, même ça m'oblige, même philosophiquement, à revoir... voilà, vous voyez, pour jusqu'où ça vous emmène. Donc, et pourquoi? Parce qu'ils expliquent ce que c'est que le pouvoir sur les activités pertinentes. Ah, ils disent, ah mais non, c'est pas que les droits de vote. Ils vont appeler ça les droits de vote... Ils vont appeler ça, bien sûr, il faut analyser les droits de vote substantiels. Et c'est quoi les droits de vote substantiels? Ben, c'est les droits de vote... Quoi? Les droits... Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Le pouvoir se mesure par les droits substantiels. Et c'est quoi les droits substantiels? C'est les droits de vote. Voilà. C'est les droits de vote potentiels. Alors, les droits de vote potentiels, c'est quoi? Par exemple, j'ai des bons de souscription d'actions, des options, etc. Et c'est mon droit de pouvoir nommer des gens, de pouvoir choisir de pouvoir choisir la stratégie, etc. C'est ça qui caractérise mon pouvoir. Alors ça caractérise mon pouvoir, premièrement. Donc pour savoir s'il y a contrôle, il faut qu'il y ait pouvoir. Il faut, deuxièmement, donc, je vous ai dit, droit au rendement variable. C'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'ai des dividendes. Et troisièmement, il faut que j'ai la capacité d'agir sur ces rendements. Alors c'est assez compliqué, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un lien entre la stratégie et le résultat, ou un lien, par exemple, dans la rémunération, qui est une partie variable et une partie fixe. Et donc, ils vont analyser, pour savoir si une société mère contrôle la filiale, il faut analyser tout ça, et il faut faire appel à son jugement et à sa réflexion pour savoir si vraiment la société mère détient le pouvoir sur la filiale. Et aussi, il faut analyser, pour être sûr que vous ayez le pouvoir, que personne ne peut vous contrer. Donc, il va y avoir la notion de droit protectif. Et donc, si vous avez 49%, mais que les autres en face ont une multiplicité de petits actionnaires et qui se mettent d'accord et qui peuvent vous contrer dans les décisions, alors vous n'aurez pas le pouvoir. Donc, ils introduisent une autre notion qui est le droit protectif et de savoir est-ce que vous pourrez utiliser ou pas ce pouvoir. Donc, en fait, il faut que ça soit un pouvoir, voilà, un pouvoir que vous allez, un pouvoir réel. Donc, voilà. Alors, comme c'est hyper compliqué, il nous donne plein d'exemples et puis il nous donne des explications aussi. Donc, je vais vous en lire un. Voilà, je vous donne un exemple où il y a l'investisseur A, donc ça veut dire une entreprise, détient 45% des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Deux autres investisseurs en détiennent chacun 26%, le reste étant détenu par trois autres actionnaires à raison de 1% chacun. Donc il y en a un qui a 45%, deux à 26%, et les trois autres, il y a 1%. Il n'existe pas d'autre accord ayant une incidence sur la prise de décision. Dans ce cas, l'importance du bloc de droit de vote détenu par l'investisseur A et son importance relative par rapport aux autres participations permet de conclure que l'investisseur A n'a pas le pouvoir. Il suffira en effet de la collaboration de deux autres investisseurs pour l'empêcher de diriger les activités pertinentes. Donc si on est bloqué, on n'a pas le pouvoir. Donc il faut étudier toujours les droits, il faut voir ce que vous avez, il faut analyser les faits et les circonstances et de savoir voilà, quel est l'investisseur qui a le plus important. Voilà, il y a toujours cette question, même si l'investisseur a une majorité, est-ce qu'il a vraiment ou pas le pouvoir ? Alors, il y a plein d'exemples, et je vous dis, ça c'est que pour le contrôle, c'est le contrôle important, mais après il y a le contrôle conjoint, etc. C'est encore plus gros, et c'est encore plus compliqué, Alors moi j'étais très contente, vous voyez, quand je suis en cours, j'enseigne la consolidation, et puis évidemment, première chose, j'enseigne le périmètre, et puis le contrôle, et là je leur explique. Et les élèves, ils ont du mal à comprendre, et puis bon, voilà. Et je passe trois jours, quelquefois deux jours entiers à expliquer ça. Donc je suis contente, quoi, vous voyez. Je suis contente parce que je me dis, ça sert à quelque chose et tout. Puis j'écoute Eric, puis je me dis, en fait, ça sert à rien, quoi. Tout ce que je suis en train de leur faire faire, et pourtant, je renseigne dans l'UV qui est une UV de sélection pour l'expertise comptable, donc il faut absolument qu'il l'ait à l'État. Et en fait, donc on passe des jours, quand je vous dis des jours, c'est plus que des jours, je les entraîne, etc. Et en fait, ça ne sert à rien. Ben voilà, ça ne sert à rien. Ça, c'est ma première partie. Ça sert à rien. Voilà. Alors, voilà. Alors, à quoi ça sert ? Non, parce qu'en plus, c'est d'une complexité incroyable. Donc, il faut voir. Bon. Alors, ça, c'est ma première partie. Donc, maintenant... Donc, oui, alors, évidemment, ça ne sert à rien, parce que vous avez compris qu'il y a l'autonomie totale. Vous avez compris ça grâce à Eric, hein, et grâce à l'exposé de Merlin et d'Annie, qu'il y avait une autonomie totale des entités. Alors, ça m'a fait quand même... J'ai souvent des chocs en gestion, donc celui-là fait partie des chocs que j'ai, donc voilà. Et j'en ai quand même... Alors, Eric me dit tout le temps, mais évidemment, parce que le droit des sociétés, dans le droit du travail, on ne peut pas invoquer le droit des sociétés, etc. Mais je lui dis, mais écoute, ça c'est écrit dans le droit des sociétés, tout ça, donc bon, mais bon... Je sais pas. Alors il me dit oui, mais le contrôle, c'est différent selon les types de droits. Alors moi j'ai pris, j'espère que tu vas peut-être me contredire, Eric. Moi j'ai pris le droit du travail et je lis que il y a des comités de salariés du groupe des sociétés qui sont créés et que l'existence d'une influence dominante d'une entreprise fait l'objet d'une présomption simple. Donc, est simple que cette entreprise remplit directement ou indirectement l'une des conditions. Elle peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration. Elle dispose de la majorité des votes attachés aux parts émises par une entreprise. Elle détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. Donc, j'apprends, en lisant le code du travail, qu'il peut y avoir des comités de salariés du groupe quand... qu'il peut y avoir des comités de salariés du groupe. Donc je me dis, il y a quand même des points communs entre le code, entre le code des sociétés et le code du travail. Mais je me trompe, hein, tu me diras. Bon. Mais bon. Donc, ah oui, puis j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même. C'est que le groupe n'est pas fini dans la réglementation française, mais en norme IAS-IFRS, c'est défini. Le groupe est défini et le groupe est défini, je ne vous l'ai pas dit. Et le pouvoir est défini, quoi, il y a un résumé. Si je le retrouve, mais je vais le retrouver. Donc le groupe, c'est la société et ses filiales, et le pouvoir des droits effectifs qui confère la capacité de diriger les activités pertinentes. Voilà. Donc c'est ça. Donc je voulais... Voilà. Donc...
Quelle ligne, s'il vous plaît, quelle ligne?
Comment?
Quelle ligne, pardon?
Excusez-moi, quelle ligne?
Pas quel endroit vous retrouvez ce...
Tout ça? Ah bah c'est là-dedans.
Non, pas tout ça, non, non.
Les normes IFRS,
c'est crucial.
C'est les normes IFRS 10.
Non, mais pas tout ça ce qu'elle vient de dire.
C'est les normes IFRS 10.
La société, le pouvoir de contrôler les activités pertinentes, c'est à quelle page? C'est ça la question.
Ah, bah c'est quelle page?
Non, si c'est dans l'IFRS 10, ça me suffit.
Voilà, c'est l'IFRS 10. Voilà. Super. Donc voilà. Alors, donc c'est la deuxième partie que j'ai un peu commencé à moitié, quoi. C'est donc le contrôle, et puis en face, donc vous avez le contrôle, et puis en face, vous avez l'autonomie. Mmh. Alors, on dit, il y a une diversité des définitions du contrôle au niveau du droit. Bon, moi, je trouve qu'il y a quand même des points communs, mais ça, je suis pas juriste, donc je pourrais pas me permettre. Je sais aussi que par rapport à la notion de vigilance, quand on certifie les comptes, on doit avoir aussi... mettre en place une approche par les risques et aussi on doit développer cette notion de vigilance. Donc là, on a l'air quand même d'un commun accord. Mais c'est vrai qu'au niveau du droit, en tout cas au niveau du droit au niveau français, la notion de groupe n'est pas définie, bien qu'elle y ait écrit que c'est une entité économique unique dans le droit des sociétés. Alors je me dis à quoi ça sert la comptabilité et à quoi ça sert cet exposé. En fait, je crois là que pour les groupes, en fait, la comptabilité, ça va être un enjeu. Ça va être un enjeu, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple au début, de communication financière. Alors, quel type d'enjeu? Alors d'abord, de savoir qui est dans le groupe. On avait vu, donc d'abord, il y a un enjeu au niveau du périmètre, de savoir qui est dans le groupe et qui ne va pas être dans le groupe. Qui va-t-on contrôler complètement ou qui on ne va pas contrôler? Donc on avait eu, donc, je vous ai dit, l'exemple avec Enron. Il y a un deuxième enjeu, c'est qu'au niveau du groupe, quand vous produisez les comptes consolidés, vous devez faire un manuel de consolidation. C'est-à-dire que, par exemple, dans une filiale, on amortit sur 10 ans, dans l'autre filiale, on amortit sur 5 ans, eh bien, vous allez choisir une durée d'amortissement commune pour l'ensemble du groupe. Et là, ça va être aussi stratégique, parce que ça va permettre... au niveau du groupe, soit de changer des amortissements, soit de changer l'évaluation des stocks, etc. Donc il y a aussi un enjeu stratégique. Et puis il y a un autre enjeu, c'est au niveau de l'écart d'acquisition. Et ça, j'aimerais bien vous en parler, même si vous n'êtes pas comptable. Parce que, en fait, quand vous prenez, et vous m'arrêtez si ça ne va pas, quand une société prend des parts dans une autre entreprise, elle va l'acheter pour un certain prix. Mais ce prix, ce n'est pas forcément le montant, des capitaux propres de l'entreprise. Il va y avoir une différence. Parce que, par exemple, c'était comme dans votre exemple, dans ce que vous avez vécu, quand il y avait... si, par exemple, vous prenez des parts dans une entreprise et où, par exemple, comme va y avoir des brevets, etc., ils ne vont peut-être pas forcément être évalués comptablement. On va peut-être les rajouter certaines plus-values, mais il va y avoir, comme vous les voulez absolument, on va payer beaucoup plus. Donc, ça veut dire que vous acceptez de payer beaucoup plus parce que ça va vous donner des avantages. Et ça, cette différence entre la valeur en simplifiant beaucoup, la valeur des capitaux propres et ce prix d'achat, ça va être un écart d'acquisition ou ce qu'on appelle un goodwill. Bon, j'ai simplifié. Mais ce goodwill ou cet écart d'acquisition, il peut représenter la valeur des capitaux propres. Ça veut dire qu'il peut être énorme. Et là, si on garde en tête la notion que les comptes, c'est aussi qu'est-ce qu'on va montrer à travers les comptes, quelle image on va donner, il va y avoir des enjeux comptables énormes sur la façon non seulement de calculer l'écart d'acquisition, mais aussi comment on va le comptabiliser. Et ça va avoir des effets extrêmement importants. Il y en a eu beaucoup, c'est justement l'exemple de Pichinet jouait sur l'écart d'acquisition, mais il va y avoir beaucoup, il y a eu beaucoup d'exemples, si bien que la doctrine comptable, aussi bien en norme française qu'en norme internationale, a essayé de rétrécir un peu la marge de manœuvre. Par exemple, en France, c'était tellement rétré. Par exemple, on avait dit on ne peut qu'amortir, ça veut dire qu'on va indiquer qu'il perd de la valeur chaque année régulièrement. Ça va, je ne vous ai pas perdu là encore ? Non ? Bon, voilà. Mais il y a un tel enjeu qu'en fait, évidemment, la doctrine comptable a changé et laisse une possibilité, en tout cas en France, de savoir pour pouvoir le déprécier, c'est-à-dire lui indiquer déprécier, ça veut dire qu'elle peut perdre de la valeur d'une autre manière. En norme IAIC-FRS, vous ne pouvez que le déprécier. Et alors là, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire comment on déprécie quelque chose dans les comptes annuels, par exemple, de LVMH. Ça va, ça vous craquez pas ? Ça va ? Juste, vous dire, ça, voilà, attendez. Après, bon. Alors, donc, en comptabilité, on justifie tout. Hein. Donc, je vous lis comment on a déprécié d'une filiale de LVMH l'écart d'acquisition. Des tests de perte de valeur sont réalisés pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte de valeur apparaît, et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéterminée. Ça, c'est un peu la règle. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs à durée de vie indéfinie devient supérieure au montant le plus élevé de la valeur d'utilité ou de marché, une dépréciation est enregistrée. Ça, c'est la règle. Alors maintenant, ils nous disent comment ils ont fait. La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs. La valeur de marché de l'actif est déterminée par référence à des transactions similaires, récentes ou à des évaluations réalisées par des experts indépendants dans une perspective de cession. Les flux de trésorerie prévisionnels sont établis au niveau du groupe par secteur d'activité. Un secteur d'activité correspond à une ou plusieurs marques ou enseignes et à une équipe de direction dédiée. Au sein du secteur d'activité peuvent être déterminées des unités génératrices de trésorerie d'un niveau plus petit tel un ensemble de magasins. Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels établis par la direction des secteurs d'activité concernés. Les plans consistent, alors craquez pas, hein, vous l'écoutez comme ça, comme une petite histoire. Les plans consistent en des projections à 5 ans, cette durée pouvant être étendue lorsqu'il s'agit de marques en cours, de repositionnement stratégique ou dont le cycle de production est supérieur à 5 ans. À la valeur résultant des flux de trésorerie prévisionnels actualisés, s'ajoute une valeur terminale correspondant à la capitalisation à l'infini des flux de trésorerie issus le plus souvent de la dernière année du plan. Et je termine. Lorsque plusieurs scénarios prévisionnels sont retenus, une probabilité de survenance est attribuée à chacun d'entre eux. Le taux d'actualisation des flux de trésorerie prévisionnels reflète le taux de rendement attendu par un investisseur dans le domaine d'activité concerné et la prime de risque propre à cette activité. Alors, ça doit vous sembler un peu... Moi, je l'ai lu à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout à la comptabilité, et elle m'a dit, oh, ça a l'air d'être très sérieux. Alors, ça m'a encore plus inquiétée, parce que pour quelqu'un qui est expert comptable, en fait, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que vous pouvez... Ça a l'air d'être sérieux, mais en fait, vous voyez, c'est des flux de trésorerie qui ont été, voilà, qui ont été projetés, qu'on a comparé avec des marques, des enseignes. Quoi. Vous voyez, donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez quand même une capacité, il y a une capacité, en tout cas en comptabilité, de pouvoir faire, donc, varier certains postes, dont les cartes d'acquisition et dont le goodwill, qui est un enjeu... qui a un enjeu incroyable pour les groupes cotés et qui peut le faire varier à la hausse ou à la baisse. Donc voilà. Donc, Dans les enjeux, il y a savoir qui est dans le groupe, savoir le manuel de conso, il y a l'enjeu des cartes d'acquisition, il y a les enjeux de variation de périmètre, c'est-à-dire où on fait sortir des entreprises, puis on refait des filiales ou des entités et on les fait re-rentrer, parce qu'il y a des façons de comptabiliser qui vont jouer sur le résultat en plus ou en moins. Donc, en fait, voilà. Au niveau comptable, je crois, on a beau étudier le contrôle, en fait j'ai l'impression que les comptes consolidés, qui sont certifiés par un commissaire aux comptes, il y a quand même plus des enjeux pour comme un outil de communication financière et qui est stratégique. Alors évidemment, là j'ai fait complètement abstraction de la comptabilité de gestion et des prix de cession interne dont on aurait pu parler, mais j'ai fait abstraction. Alors en fait, pour conclure... C'était un peu une promenade dans la comptabilité. Mais pour conclure, je pense que c'est important que Mireille Delmas-Marty, justement, et Eric en parlait, parle des forces imaginantes du droit. Et elle dit, et elle raconte à travers son expérience comment elle a fait changer certaines choses et a apporté certains concepts. Et je pense que c'est important, et c'est pour ça que je suis très contente. Je vous remercie beaucoup, Dominique et Aurore, d'être là. Je pense que c'est important qu'on puisse relier justement la comptabilité dans les droits qui est en tout cas qui relève d'articles du code de commerce, et de pouvoir peut-être plus réfléchir à cette notion justement de contrôle, et sans devenir, comme disait Jacques Richard, on a l'impression qu'on est un peu dans un monde de fous où tout d'un coup on a construit tout un côté contrôle, etc. Puis d'un autre côté, on vous dit ça n'existe, ça n'existe plus. Donc je pense que c'est à nous d'avoir assez de rencontres pour pouvoir faire. Quoi, c'est ambitieux. Hein, pour pouvoir faire avancer. Quoi, Eric, t'as dit que c'était la société civile, c'était Sherpa pour la vigilance. Donc voilà. Voilà, c'était cette balade comptable.
Merci beaucoup. Je propose qu'on n'entame pas un débat sur les normes comptables. Moi je trouve ça super intéressant, mais on le garde peut-être pour la fin. Là, on prend une ou deux questions vraiment ponctuelles pour laisser Mohamed Oussedik nous donner un peu son retour aussi sur tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
J'avais une petite question sur les normes IFRS, là.
Ouais.
Je trouvais ça extrêmement intéressant, mais... la question, du coup, cette histoire de cette définition par le contrôle exclusif et puis le fait de pouvoir tirer des dividendes, etc., est-ce que ça veut dire que, parce que dans l'idée que j'ai, mais qui est peut-être une idée fausse, un groupe, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être plus ou moins liées entre elles, enfin, toutes les questions de stratégie de groupe, est-ce que là, ça veut dire qu'un actionnaire, un acteur uniquement financier qui possède tout un tas d'activités dans des domaines extrêmement divers en fonction d'une gestion de portefeuille qui lui appartient, est-ce que ça peut être défini selon les normes IFRS comme un groupe?
C'est-à-dire qu'il a plein d'activités.
Oui, un actionnaire, je ne sais pas, qui posséderait tout un tas de sociétés, mais qui n'a pas une stratégie de groupe.
Il n'y
a pas de distinction entre.
Non, mais si, il a quand même, il faut qu'il ait quand même. Il a complètement les parts ou pas?
Je ne sais pas, il peut avoir dans certains cas qualité des parts ou une part significative des parts. Ça correspond à
Non, tout dépend s'il s'agit d'une entité juridique ou d'une personne privée.
Oui, c'est une personne privée. Ah oui, ah ben moi je pensais. D'accord, pardon.
C'est son affaire à lui. En revanche, si c'est une entité juridique qui détient d'autres entités juridiques, là, c'est tout le monde.
Oui.
Marcel Dassault, avant savoir qui possède les Jours de France et les amis de Marcel Dassault, c'est le bon groupe.
Oui. Moi, j'ai pensé j'ai pas pensé en termes de personnes.
Donc,
excusez-moi.
Sur ça.
D'accord. D'accord.
Et Marie-Hercine, est-ce que tu irais jusqu'à dire que là, quand on calcule le prix, ce que tu nous as raconté à la fin, on peut dire n'importe quoi ou c'est pas tout à fait n'importe quoi?
On peut dire beaucoup de choses.
Tu racontes une histoire.
On raconte une histoire.
Oui. D'accord. Mais donc, sur n'importe quoi, est-ce qu'à la fin, ça peut être vraiment n'importe quoi?
C'est des gens qui ont des cravates, ils racontent pas n'importe quoi.
Bien sûr.
Mais si, je peux te montrer, mais là, j'ai pas apporté. Mais je pourrais te montrer des...
Non, mais on peut dire ça ou pas?
Dans certains cas, oui, je pense que oui. Quelquefois, quand tu vois des provisions exceptionnelles de 24 milliards et puis qui sont reprises l'année suivante et qu'il n'y a rien eu, quoi, s'il ne s'est rien passé, mais je peux te montrer des comptes comme ça. Des comptes de groupe comme ça.
Ok. On laisse la parole à. Pardon, oui.
Oui, Dominique Guillamot-Lenain, ancienne consultante, notamment en restructuration d'entreprises et plans sociaux. Donc, ça me rappelle mes activités de jeunesse. Il me semble que les termes qui sont employés sont des termes typiques de mentalité anglo-saxonne. Control, ça n'a jamais dit contrôler, ça veut dire sur. Alors, l'anglais, c'est supervise. Control, c'est commander. Et ensuite, les activités pertinentes. C'est, il y a plein de jeux de mots qui me semblent, d'ailleurs on sait très bien que le substantiel en anglais est un contresens en français, donc je voulais intervenir simplement sur ces différences et de vocabulaire et de mentalité.
Ah oui, mais alors ça a été traduit, c'est traduit au journal officiel, en fait c'est les termes du journal officiel.
Certainement, par des gens même consciencieux et tout, donc c'est pas ça que je mets en cause, c'est le fait que dans les termes employés, il y a beaucoup de latitude, comme on dirait en français. Là, ah c'est oui. Si, il y a beaucoup de si, actualisé, mais à partir de quel tour, il y a beaucoup de latitude, moi j'ai entendu beaucoup de
oui,
latitude,
c'est ça.
Au nom de ma toute petite expérience par rapport aux experts que j'emploie. Voilà.
Merci.